Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, nous allons repartir au Congo. Et puis avant, je vais vous dire un tout petit mot, tout petit, à propos du cinéma. Je vous avais promis de faire une virée et de vous en rendre compte. La virée a été un peu courte, mais assez joyeuse. J'ai commencé par Parasite. Eh bien, Parasite, j'ai perdu mon temps, personnellement. Mais peut-être que vous, ça vous amusera. C'est une histoire de... Une aventure, oui, c'est une histoire... L'aventure d'une famille. Ils sont tous plus fêlés les uns que les autres. Et ils font des trucs pas possibles, soutenus par des effets spéciaux grandioses. Et ça aurait pu être une... Mais c'est peut-être une saga sociale, hein, qui met en opposition et même en communion deux milieux complètement opposés. Mais enfin, moi, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Hein, pas du tout, du tout. Je n'ai pas compris pourquoi on a décerné une palme d'or quasiment à l'unanimité, oui, il me semble, d'ailleurs, à cette chose. Par contre, il y a Yuli. Et Yuli, il faut y aller. Il faut absolument y aller. L'histoire vraie d'un gosse de La Havane qui dansait partout, tout le temps, et puis qui a fini par arriver au ballet national britannique avec les félicitations de la reine, etc. Et qui est toujours... Hein, C'est une merveille, c'est vraiment une merveille. Et en plus, on a le héros qui joue son propre rôle, ce qui garantit un spectacle époustouflant du début à la fin. Alors, allez voir Yuli, ça vous consolera. Vous en aurez besoin parce que ce que je vais vous lire là maintenant, eh ben c'est la suite, hein, de la suite de Congo d'Éric Villard que je vous avais appelé le terrain de jeu de Léopold. Maintenant, la deuxième partie, on pourra appeler ça, Stanley & Co. par exemple. Encore que Stanley, on ne va pas beaucoup en parler. Mais & Co, c'est bien pire que Stanley. Voilà, j'espère que je ne viens pas de vous faire tourner le bouton pour ne pas m'entendre. Eh ben, sinon, tant pis, j'ai pris le risque. Voilà, la suite, donc, racontée par Éric Villard. La conférence de Berlin, donc, 1884-85, la conférence dura encore des mois. Il y aurait tant de choses à raconter. Mais les détails ennuient. Après bien des pinailleries sur les frontières, bien des finasseries, la conférence se termina le 26 février 1885, comme je vous disais. Les dernières séances s'écoulèrent à parler des moyens de lutte contre la traite. Mais oui, tout le monde était d'accord là-dessus. C'était le grand thème à la mode. Puis Bismarck vint se plaindre de sa santé. Il lut un petit résumé des négociations. Applaudissements, on lève son verre, champagne, on porte un toast et on signe l'acte final. Voilà, c'est fait. L'Afrique possède son acte notarié. Alors, brusquement, juste après que les 14 enfants sages eurent levé leur verre à la bonté, à la modération, à la prospérité, ou je ne sais quel autre démon, il y eut un envol de grues dans le paysage, les sapajous montrèrent leurs dents et les cacatoès firent mousser leurs couleurs. Soudain, un immense frisson parcourut le monde. La vague submergea tout. Pas un seul petit morceau de terre ne fut épargné. Il y a une espèce d'étoile au-dessus du monde. Elle indique une crèche en Afrique. Les rois mages se sont mis en route pour aller voir le nouveau-né. Ce n'est pas pour se mettre à genoux qu'ils y vont. Ils ont bien quelques cadeaux à offrir, de la verroterie. Non, les rois mages ne vont rien donner. Ils vont prendre. Émus de voir l'étoile, ils partent une nuit. Ça faisait des siècles qu'ils attendaient ça. Depuis le début des temps, chaque homme attendait ça. La Mésopotamie l'avait attendu, l'Égypte l'avait attendu, les Phéniciens l'avaient cherché, au-delà des colonnes d'Hercule, les Grecs l'avaient cherché jusqu'à l'Iphase, les Romains l'avaient cherché jusqu'au Danube, les Arabes jusqu'à Poitiers. Et les Huns, les Mongols aussi, l'avaient cherché très loin, et avec eux tant de peuples. Mais voici que soudain l'étoile se lève, on la voit bien, elle est là, au milieu de nous, nos désirs pendent à elle, notre soif est intacte, le chemin est là, évident, possible. Il va nous mettre au monde. Alors, tous les pays d'Europe ont tapé dans leurs casseroles. Ils ont sauté la haie. L'étoile filait devant eux de toutes parts. À l'est, à l'ouest, au sud, l'étoile devenait folle.
« Je réussirai jamais à la suivre », se disait-on.
Mais on la suivait. Et où que l'on alla, il y avait une nouvelle terre. Où que l'on alla, les peuples avaient économisé pour nous pendant des siècles. Ils avaient tout économisé. Leur caoutchouc, leur sucre, leur café, leur force, leur femme, leur vie. Oui, tout était à nous. Tout. C'est incroyable. Le cœur est ainsi fait. Quand il plane, il est beau, il est pur, il sent bon. Mais dès qu'il se pose, il pue. Ah, on saurait maintenant que le Verbe ne s'est pas fait chair. Il s'est fait caoutchouc, tabac, charbon, il s'est fait directorship des banques, de compagnies de chemin de fer, d'industrie, financier, breloque, pignouf, roi du Congo. Oui, partout il y avait quelque chose de plus grand et de meilleur, de plus beau, de plus désirable.
papillon noir, forêt, un champ de coton. J'ignore comment les détails furent réglés. On prit le bateau, on chargea les fusils, les munitions, les toiles de tente, les gamelles, les haches et tout ce qu'il fallait pour se construire des camps au milieu de la forêt et asservir les peuples. Je ne sais pas comment Strauch ou Lemaire firent leurs valises avant leur long voyage. Sur quel bout de papier note-t-on ce qu'il faut prendre pour bâtir un État? Je ne sais pas. Lemaire avait 27 ans quand il fut nommé à la tête du district de l'Équateur. Il débarque à Banane en 89. Au début, il travaille comme adjoint du commissaire au district des Cataractes. Un an plus tard, il est à Équateurville. Il y reste 3 ans. Ses effectifs seront de 10 blancs et de 500 noirs. Et pour toute organisation, il n'a rien d'autre que ça. Quelques fusils, quelques livres de comptes. Le maire règne sur un immense morceau de vide, le blanc d'une carte. Mais il faut tout de même bouffer. Ces soldats doivent bouffer. Toute la petite troupe qui forme l'embryon du nouvel État doit bouffer. Alors on fait venir les chefs de village. On leur cause. Ceux qui ne seront pas amis auront la guerre. Être ami, ça veut dire fournir des hommes et des vivres. Et aussitôt, ça se corse. Quelques chefs tentent de négocier pour éviter le pire, mais les exigences de Lemaire sont exorbitantes. Et voici que les villages prennent feu. Les uns après les autres y brûlent. D'abord sur la rive droite du fleuve, 5 villages brûlent. Puis le village de Bakanga est incendié. Quelques jours après, c'est le village de Bolobo. Tous les villages Irébu brûlent. Ceux de Bokaka et de Moboko brûlent. Ifeko est rasé. Bangui est rasé. Le maire parcourt la forêt. Il surgit brusquement avec sa petite troupe armée, exige des hommes de la nourriture. On palabre. Le maire menace. Parfois, on se prosterne et on livre son tribut d'hommes et de chèvres. D'autres fois, des flèches pleuvent. Les hommes se retinrent dans la forêt. Et le maire fait mettre le feu aux huttes. Il regarde brûler tout ça avec un fond de tristesse bizarre, car le maire est jeune, il est triste, jeune et triste. Il a peut-être été jeté dans tout ça sans comprendre. Et voici qu'il s'y trouve. Il y trouve à la fois plaisir et horreur, comme il le dira lui-même plus tard. L'horreur est remontée lentement en lui, en secret, mais il a continué à brûler, à tuer. Il a pendant 4 ans traversé la brousse et la forêt en tous sens. Il a continué à récolter des vivres pour ses troupes, brutales, aveugles. Il a fait son devoir, son affreux petit devoir. Il l'a fait, avec ses yeux pleins de scrupules et de tristesse. Et brusquement, au bout de 4 ans de crime, sous sa pergola de feuillage, voici qu'un beau matin, au moment où le soleil passe au-dessus des arbres, le petit chef relit un passage de ses carnets. Un passage au hasard. Il cherche un renseignement sur un village, une note ancienne. Et voici qu'il tombe nez à nez avec autre chose. Voici qu'il tombe sur une longue suite d'incendies, de pillages, de meurtres. Voici qu'il tombe sur une ribambelle de petits cauchemars. « On refuse de me vendre la moindre chose, » relit-il. Et je ne dispose plus de vivres pour nourrir mes hommes. Aussi menaçais-je les indigènes que s'ils continuent de refuser les tissus et les perles que je leur présente, ce seront les armes qui parleront. Je vise un groupe de noirs et j'abats à 300 mètres un homme. Tous disparaissent. Nous contrôlons 5 pêcheries et nous y trouvons 4 poules, un peu de manioc et quelques bananes. Et le maire, après 4 ans passés dans la moiteur, après 4 ans de lutte, relisant ce matin-là son journal, sent tout à coup les 4 poules lui remonter à la gorge. Je ne sais pas comment on s'aveugle. Ou plutôt si, je le sais un peu, mais je ne sais pas si le crime possède ses propres rideaux de brume et s'il se dissimule comme le reste de nos malheurs. Mais il faut bien que de temps en temps quelqu'un regrette et passe aux aveux. « Je devins à mon tour chef de district, » déclare-t-il. « Pendant un temps, je suivis les exemples reçus. Puis, peu à peu, j'en vins à douter de l'excellence de nos procédés. Je relus avec horreur mes premiers rapports. » C'est là, dans ce sentiment d'horreur avoué, que je puise ma petite goutte d'espoir. Oh, pas grand-chose, juste de quoi reculer à quelques millimètres de l'épouvante, juste de quoi sortir les yeux de la grande carcasse de bête et du sentiment d'oppression, et regarder le réseau de pistes boueuses sillonnant un pays vide, et imaginer le jeune homme, Charles Lemaire, sur un sentier de terre au milieu de la forêt. Des soldats noirs le suivent, ils avancent lentement, couverts de sueur. Sur le côté, une lagune scintille. Soudain, Lemaire voit quelque chose, un tout petit frisson à la surface du monde. Il s'accroupit et leur fait signe. On reste immobile. Un homme tient son fusil serré contre lui, prêt à tirer. Chacun retient sa respiration. Cela dure peut-être une minute, puis c'est une toute petite détonation, presque rien. Et un formidable bruissement, une déchirure. Cela semble venir de toutes parts. Tumulte, cris. Il fait jour, un jour blanc. Il y a soudain un millier de taches blanches et bleues, nuées de piaillements jaillies de la forêt. Le soleil disparaît, et ce sont des oiseaux. Des oiseaux partout. Un soldat pris de peur a tiré. Mais on ne lui en veut pas, au contraire. On assiste à je ne sais quelle naissance, tirée du sommeil, vivant. Lemaire n'a jamais vu tant d'oiseaux. On dirait qu'on les a réunis là depuis le début des temps, afin qu'ils s'envolent maintenant, tous ensemble. Lemaire avance, émerveillé. Les trois blancs qui l'accompagnent s'interpellent en riant. Les oiseaux volent très bas. Autour d'eux, le ventre tourné sur le ciel, les ailes blanches, jaunes, rouges, bleues. Ah, on veut les toucher. C'est une abondance intérieure, une chose qu'on ne voit jamais. Les hommes crient, même les soldats noirs. Et puis les oiseaux s'éparpillent. Et l'impression de bonheur se dissipe. La nuit se met à tomber, lourde, chaude. On arrive près d'un village. Ils ont refusé d'envoyer un délégué au poste. La nuit est de plus en plus noire. Lemaire ne voit rien. Ses bottes sont pleines de jus. Son visage brille entre les torches. Le premier village est vide. Les habitants se sont retirés dans les bois. Lemaire est fatigué. Il a oublié les oiseaux de tout à l'heure. Et il a oublié son petit village de Cuesme, les forêts tout autour. Il a oublié ses jeux le long de la Trouille, près des saules, des courses dans les pâturages. Il a oublié. L'enfance est pourtant là, devant lui, tout entière, mais pas sous forme de souvenir, non, sous forme d'épouvante, car il a peur. Le grand seigneur est là, masque cuit, allongé dans son averse d'étincelles. Les nègres le regardent, les blancs aussi le voient, tous le voient à travers leurs yeux épouvantés. Ses ailes rôtissent, son bec grésille, sa peau est noire. Alors le maire ordonne de tout brûler. Il hurle et les nègres courent et glapissent dans leur langue bizarre. Mais le maire ne comprend rien et s'en fiche. Il hurle dans sa propre langue, la plus bizarre de toutes. Il hurle de jeter les torches dans les huttes, de tout détruire, tout, tout, tout. Et on brûle tout. Des femmes sortent en courant, presque nues, l'une tenant un enfant derrière elle dans des nœuds de tissu. Les surveillants lâchent leurs fusils. Ils suivent les femmes dans la forêt. Le maire passe entre les maisons en feu. Il ne voit plus rien, sans doute, rien que des flammes. Et à travers elles, le centre des choses, soleil, fumée. Il n'entend pas les cris. Le bois crépite, l'écorce éclate. La forme lentement se débarrasse d'elle-même. Mais le feu trouve toujours un bout de bois, un ballot de tissu. Et il se rallume, et le grand seigneur se tord à nouveau et se calcine. Le maire a la fièvre. Il avance dans la nuit que le feu éclaire, la nuit vide, terrifiante. Soudain, il entend un cri de femme. Trois coups de fusil. Puis un cri horrible. Il en fera, Charles le maire, des expériences punitives. Et après 1893, après deux autres séjours, il finira, je crois, professeur d'école coloniale. Mais alors, dans sa vie paisible de professeur, je ne sais pas où il mettra tout ça. Les coups, les cris, le sang et la puanteur, je ne sais pas où il ira les perdre et les oublier. Comme de vilains enfants qu'on ne veut plus voir. Le Congo, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un fleuve et la grande forêt. Ça fait peut-être 80 fois la Belgique. Et même 80 fois rien, ça finit par faire quelque chose. Aujourd'hui, les villes portuaires du Congo s'appellent Banane, Soyo, Matadi, Moanda. Qui connaît ces noms? Banane ne dispose d'aucune grue en état de marche. Il n'y a là-bas ni chemin de fer, ni route carrossable. On a du mal à imaginer Banane. Pourtant, Banane existe vraiment. Le Congo, lui, n'existe pas, n'est rien qu'un fleuve. Mais Banane est une ville réelle. Une route y mène depuis Moanda, la Nationale 1, la seule route jusqu'à Boma. Au bord du fleuve, des cabanes de tôle et de chiffon, des pirogues. Pas très loin, on pompe du pétrole. On doit y construire un port en eau profonde. On parle d'une entreprise égyptienne et de deux chinoises. Mais c'est une coréenne qui rafle la mise. Reste le fleuve, le fleuve. Qu'est-ce que c'est un fleuve? Un peu de boue et beaucoup d'eau? De l'eau, cette chose qui coule, y a dans un fleuve une multitude de vies et de morts, de chemins, une multitude de galets, de sable, de rochers, et tout ça se soutenant seul et formant une grande cicatrice où l'eau coule. Et puis il y a les rives. Au-dessus de ce que nous sommes en secret, il y a les rives. Où le fleuve, quelquefois, déborde, emportant tout ce qu'il peut, mais qui sont d'habitude libres dans la lumière. Mais il n'y a pas que le fleuve, il y a aussi la grande idole nocturne, la forêt. Une chose s'y cache, qui est à la fois source jaillissante et plus épaisse que mon corps, plus lourde que la chair. Il y a un moment, dans l'angoisse, où la lumière est désorientée. Quelque chose nous a devancés dans la solitude. Les grandes lianes, les arbres, les oiseaux, les rayons de lumière qui traversent les branches et cet endroit, là-bas, que l'espoir ne parvient pas à atteindre. Cette chose nocturne qui se creuse au milieu des couleurs. La forêt est sous la terre. Un endroit où tout est possible, où rien n'arrive. Un secret sur ce que nous sommes, la peur. Une bête que le calme tient endormie. La chair est là, sans s'appauvrir, qui voudrait entrer tout entière dans le soleil, mais le soleil est sous la terre, Dieu obscur, entre les racines, les bulbes et le bois pourri. Après le maire, il y eut Fiévèze. Le fleuve et la forêt ne l'avaient pas attendu. Les villages, les huttes, les pirogues ne l'avaient pas attendu. Mais il vint. Il vint arracher quelque chose à cette terre, à ce fleuve et à cette forêt. On était venu ici pour remplir des petits paniers de sève. Stanley, le maire et quelques autres avaient bâti des comptoirs. Il fallait à présent procéder à la récolte du caoutchouc. C'est pour ça qu'on était venu, pour le caoutchouc. Et il en fallait le plus possible, et vite. Car un État, même fantoche, même un État sans administration, sans école, sans hôpitaux, sans rien, ça coûte cher. Le Congo coûtait cher. Il fallait donc lui soutirer son ivoire et son caoutchouc pour qu'il se finance lui-même. Vinrent alors Fiévèze et bien d'autres. De pauvres types, désirant s'enrichir à tout prix. Tout alla très vite. En quelques mois, l'horreur monta d'un cran. L'Europe voulait du caoutchouc. C'était alors tout ce qu'elle demandait. Elle se fichait bien de comment ce caoutchouc pourrait être pris, récolté, touillé, filtré, séché. Il lui en fallait sa dose. Point barre. On ne sait pas exactement d'où est sortie sa face hideuse. Certains racontent que c'est Fiévèze qui l'édicta. Dans son peignoir crème, auquel manque un bouton, se tenant devant sa résidence à moitié ivre, il aurait proféré cette règle intolérable. Celui qui tire des coups de fusil doit, pour justifier l'emploi de ses munitions, couper les mains droites des cadavres et les ramener au camp. Celui qui tire des coups de fusil doit, pour justifier l'emploi de ses munitions, couper les mains droites des cadavres et les ramener au camp. Alors, la main coupée devint la loi, la mutilation une habitude. On a dit parfois que Fiévez avait été pour Conrad le modèle de Kurtz. Mais Fiévez, le vrai de vrai, est bien pire. Fiévez est au-delà de tous les Kurtz, de tous les tyrans et de tous les fous littéraires. Fiévez est une âme véritable piétinée. Mais qui était-il? Un de ces meurtriers qu'on utilise, un de ces enfants fous employés par la grande machine. Fiévez fut une sorte de roi. On n'a jamais rien vu de tel. Un roi au milieu des lianes, exploitant un peuple de fantômes. Le futur existe à peine, le passé n'est rien, le présent est mort. C'est ça, Fiévez. Il entre dans le soleil et il jouit. Il porte en lui quelque chose d'invincible comme le mal. Mais ce n'est pas le mal, c'est le dégoût. Et il porte en lui tout le dégoût de soi. Et le dégoût lui coule par les manches, par les aisselles, par les yeux, par la bouche. Il arrive au cœur. Son dégoût est plus épais que le fleuve Congo, plus venimeux que les petits serpents de la forêt, plus affreux que les visages des cadavres. Fiévez ordonne qu'on coupe les mains, celles dont les 27 os et je ne sais combien de muscles nous caressent, outils de mesure, pinceau, car c'est encore avec les doigts qu'on peint le mieux. C'est elle, la confiance, le signe, la paume. Désormais, si vous ne récoltez pas assez de caoutchouc, les surveillants vous traquent dans la forêt. Il n'y a pas de nuance, il n'y a que la mort. Je n'en dirai presque rien. Le mal nous blesse inutilement et il est ennuyeux. Quelques mots. On vous attrape et on vous fouette et on vous tue. On se penche sur votre cadavre et on vous coupe la main. C'est tout. Pas besoin d'en dire davantage. Il n'y a pas de mystère, Fiévez. Il n'y a pas de Kurtz, pas d'énigme. Le dégoût nous arrive en plein cœur. On ne sait pas quoi en faire. On est tous prisonniers de l'incroyable, arrachés au trésor. Quelle enfance a perdu Fiévez? Je ne sais pas. Quel royaume, pour le retrouver ici et le détruire et l'adorer. Fiévez fait scier tous les arbres autour de sa bicoque afin de tirer des coups de fusil sur les nègres qui passent. Voilà le système Fiévez, le manuel de son âme. Cela devait tout de même lui faire quelque chose de voir ses paniers pleins de mains. Ou plutôt non, ça ne lui faisait peut-être rien, mais alors rien du tout. Et c'était ça qu'il trouvait le plus mystérieux. C'était ça qui le fascinait et l'effarait dans son refuge de liane. Pauvre Fiévez, avec ses pièces justificatives pour les munitions employées, ces pièces justificatives faites de peau et d'os, avec cette peur qu'il distille tout autour de lui et son parfum d'étrange cauchemar. La population baisse. On raconte qu'une fois, on amena à Fiévez en un seul jour 1308 mains, 1308 mains droites, 1308 mains d'hommes. Ça devait être bizarre, ce tas de mains. On doit d'abord se demander ce que c'est. Comme sur cette photographie où des indigènes en compagnie de Harris, un missionnaire, tiennent devant eux quelque chose. L'image est incongrue, bizarres, ils tiennent entre leurs mains des mains. Il existe peut-être un noyau d'accablement qui se transmet de pauvre en pauvre, de nègre en nègre. Certains réalisent des bénéfices effarants, d'autres triment. Ça n'a jamais été autrement. Voilà ce qu'on nous dit. Mais trimer au Congo, c'est pas exactement ça. C'est un peu plus. On est forcé de travailler pour rien et le Congo ne va pas au-delà de Léopoldville. Il ne dépasse pas les trois chemins boueux qui s'aventurent dans le néant. Léopold II est propriétaire, d'un État, mais d'un État qui est un fleuve, d'un fleuve qui est une forêt. Il est propriétaire d'un État sans route, sans dispensaire, sans école, sans rien. Oh, je sais, les mentalités n'étaient pas les mêmes. Pourtant, à cette époque, Marx avait déjà griffonné quelques-uns de ses petits pamphlets redoutables. Il me semble bien qu'il avait adressé aux prolétaires de tous les pays sa grande recommandation. Tout le monde n'avait donc pas la mentalité de Léopold. Non, pas tout le monde. Pas tout à fait. Pas Marx, en tout cas. Ni Engels. Ni le bon peintre Courbet, dont la truite ouvre la gueule. Mais le Congo reste là, tout seul, perdu, dans les bidons, autour de quelques belles demeures. C'est juste un camp. Il y a peu de personnel blanc au Congo, et encore moins de Belges. Le pillage peut être sous-traité. Les fonctionnaires sont payés par l'État du Congo, mais les recettes profitent au roi des Belges. Tout ça est bien curieux. Et devant une telle indécence, on se prend à s'interroger, à se demander si, au finish, ce gros Léopold, ce géant débonnaire, n'aurait pas été abusé, illuminé peut-être, naïf. Comme on y va. La propriété de Léopold au Congo fait 8 fois la Belgique. Il ne pouvait lui-même être frappé par la disproportion entre sa personne, toute gigantesque qu'il fût, et l'immensité de ses domaines. On n'a jamais vu pareille folie. Ça n'est même pas en tant que roi qu'il règne sur le Congo, non. Il le possède. Posséder 8 fois la Belgique, c'est tout de même quelque chose. À cette idée, les projets de liberté du commerce et les négociations de Berlin prennent une toute autre couleur. On ne peut plus parler seulement de politique. Il ne suffit même plus d'évoquer la rapacité des hommes. On est face à autre chose. Face à l'embouchure d'un autre Congo, d'un autre Zambèze, encore plus large et plus vorace que le Congo, encore plus avide et écumeux et sombre que tous les Zambèzes, Amazone et Niger réunis. On est face à l'embouchure de notre naissance, à l'embouchure de toutes ces occasions qu'on ne veut pas rater. En 1876, Léopold avait organisé une conférence géographique internationale. Des sommités étaient venues. Durant 3 jours, Léopold les avait logés dans son palais de Laeken. On les avait débarqués à Ostende avec beaucoup d'égards. Un grand banquet les attendait. Le dîner avait été délicieux, les mets si variés que certains s'en souvenaient encore 30 ans plus tard, les évoquant en France, en Angleterre, en Suède, en Allemagne, devant leurs petits-enfants attentifs et médusés. Oui, on avait bien bouffé, et Léopold avait joué son rôle d'hôte attentif et spirituel. Le séjour avait été parfait. On avait eu les premières loges au théâtre, on avait ri à Marivaux et pleuré à Corneille. Un carrosse nous avait portés d'un coin à l'autre de la ville. À la fin, chacun avait reçu un petit portrait de sa caboche. On avait reçu l'ordre royal de ceci ou de cela, et on était retourné chez soi, bien fier d'être géographe. Évidemment, il n'y a pas de rapport direct entre le carrosse, les loges de théâtre, le petit portrait à 3 sous et je ne sais quel soupçon de marchandage. Et pourtant, si l'on y regarde d'un peu près, ces géographes, eh bien, on peut penser qu'on les achète. Ainsi, cette réunion adoptera à l'unanimité une amusante résolution. Elle crée un comité à but philanthropique, l'Association internationale africaine. Le tour était joué. Léopold avait réussi sa petite réunion. Il avait, comme on dit de nos jours, vendu son projet. L'aveuglement est une espérance horrible. À mettre le Congo en regard de cet arrangement, on éprouve un étrange malaise. L'intelligence, dit-on, exige des garanties plus grandes. Pourtant, si je veux mettre à côté de ces géographes en habit un nègre du Congo, et si je veux, sur la banquette du carrosse, déposer un panier, et si dans le panier je veux mettre quelques-unes de ces petites mains mutilées, que j'ai vu sur les photographies les plus émouvantes du monde, qui peut m'en empêcher? Et si je veux foutre un portrait du général Waïs, gouverneur général de l'État indépendant du Congo, et juste au-dessous, comme un clou de ténèbres, la photo de ses enfants amputés que j'ai vu dans un livre? Et si je veux, entre les médailles, sur la poitrine de Waïs, sous le regard horriblement triste de Waïs, avec au fond des yeux une chose souillée, défaite, planter l'autre regard, celui de l'enfant, si triste. Mais pas de la même tristesse, pas du tout. D'une autre tristesse qui s'enfonce dans le cœur, qui vous fait vous sentir tout petit, bien plus petit que Weiss ne le sera jamais, et vous fait remonter tous les fleuves, et vous perdre tout au fond de vous-même, et pleurer. L'effroi nous saisit en regardant ces photographies d'enfants aux mains coupées, les cadavres, les petits paniers pleins de phalanges, les tas de paumes, l'effroi, mais surtout une peine immense. Et cette peine, c'est elle qui rapproche, sans le vouloir, la photo de Weiss et celle des enfants. C'est elle qui rapproche les médailles et les moignons. C'est elle qui réclame de voir les carrosses, les loges de théâtre, toutes ces babioles jetées à la face des photographies légendaires pour qu'elle les dévore. Mais les petits enfants de papier ne dévorent pas les images du passé. Elles restent ce qu'elles sont, désinvoltes, pacotilles. Et eux, ils les regardent, indifférents, à travers leurs yeux de papier. Et leurs yeux de papier nous font sentir si fort une chose dedans, qui est à la fois étouffe et aspire et crie notre petitesse, capable d'énormité. Mais ces enfants ont un nom. Oh, un tout petit nom, comme Yoka, le petit garçon de l'IMB, amputé de la main droite. Comme Mola, le jeune garçon de Mokoli, aux mains rongées par la gangrène. On les voit sur la photographie de Clark. Ils sont là, avec leur visage d'enfant et cette tristesse bizarre. Bien sûr, un nom, ce n'est pas grand-chose. C'est tout petit, un nom. Plus petit encore qu'un visage, et si fragile. Oh, ce n'est rien du tout un nom de petit garçon. Et Yoka, à qui les hommes de Fievez et la loi de Fievez ont coupé la main, il se tient devant nous, le visage fermé, et par un petit trou de son âme, nous regarde. Dieu, que ça fait mal, une âme, que c'est petit et violent. Tête baissée, il hurle, le petit Yoka, il hurle en silence pour qu'on lui raconte une autre histoire, pour qu'on lui dise peut-être que tout cela n'a pas eu lieu, que le Congo n'existe pas, que Fievez n'existe pas, et qu'il retourne enfin à la rivière. Mais ça ne se peut pas. Et il reste debout sur sa photographie, la tête baissée depuis 100 ans. Et depuis 100 ans, il attend qu'on l'appelle Yoka. Il attend qu'on prononce son nom et que le maléfice se rompe et qu'il retourne voir sa mère. Oh Dieu, il y a un petit garçon qui vous demande. Venez le chercher maintenant sur cette photographie où on l'a laissé. Venez le chercher entre les paillettes de lumière et cette émotion qu'il donne. Prenez-le, mon Dieu. Oui, prenez-le, tout entier, tout seul, rien que pour vous. C'est le petit Yoka, vous savez. Et il vous demande la chose la plus simple du monde.
Thank you.
Léopold fut donc pharaon. Il fut propriétaire de terres et d'hommes. Un bourgeois pharaon, si l'on veut. Quelque chose qui ne s'était jamais produit et qui plus jamais ne se produira. Un pharaon ne possède pas. Un bourgeois ne règne pas. Léopold est donc à la fois bourgeois et pharaon. Pharaon du caoutchouc. Mais on ne fait rien seul, et Léopold a bien du monde autour de lui. Et si l'on jette un œil parmi tout ce monde, au milieu d'une foule de clampins, on voit tout à coup, on croit voir double, on voit deux fois la même tête rondouillarde, deux fois le même sourire satisfait, deux fois les mêmes moustaches qui remontent. C'est qu'en réalité, il y a bien deux types. Deux types absolument identiques, absolument solidaires et identiques. Des frères jumeaux, célibataires endurcis, hommes de toutes les œuvres intimes, des gros sous au pot de chambre. Les Goffinets. Et qu'est-ce que c'est que ça, les Goffinets? Goffinets, deux barbes, deux fronts, deux paires de lunettes, quatre oreilles, une soixantaine de dents, des dizaines de médailles, quatre bras, quatre jambes. Un animal. Le tricératops avait trois cornes de vache. Il vivait au Crétacé, peinard, derrière une grande collerette osseuse, et le pachyinosaure, lézard au gros pif, avec ses trois bosses et son énorme crâne, avait lui aussi une drôle de binette. Et l'achélosaure, avec son bec de perroquet, ses bosses sur le museau, et l'einiosaure, les deux cornes tournées vers le haut, et une troisième vers le bas. Ah, on voit bien que les Goffinets, qui forment à eux deux un être étrange, ne sont pas si bizarres que ça. Et parmi toutes ces mâchoires d'herbivores, celle des Goffinets ne semble ni spécialement forte, ni spécialement redoutable, ni comique. Pourtant, si le tricératops et ses congénères devaient mastiquer des tonnes de fibres chaque jour, les Goffinets, eux, ne se contente pas de mâchouiller les branches du parc du château de Laeken. Le père, car ces animaux-là avaient un père, et pas n'importe lequel, fut avant tout l'homme de confiance de Léopold. Il l'aida dans la recherche de sa colonie, et vécut dans une incessante intimité avec lui, assurant l'intendance. Ses fils, les Goffinets, ne feront que reprendre l'affaire. L'un sera administrateur de la compagnie du Katanga et de la compagnie des chemins de fer du Congo. L'autre gérera la fortune privée du roi. Ainsi, ils suivront cette grande ellipse que leur père a tracée autour du pharaon, avec à son point d'aphélie le coucher, qui est l'équinoxe du souverain, et à son périgée les moments où Léopold se prenait pour un tricératops, un iguanodon, ou je ne sais quelle autre créature fabuleuse capable de croquer la moitié d'un continent. Éminence grise, négociateur habile, les jumeaux dont je parle ne sont cependant ni Vitanimi, ni Mpanzu Animi, ce ne sont pas les fils de l'aïeul primitif du Congo. Non, la famille Goffinet vient gentiment du village des Bulles, postée à une altitude de 320 mètres, ce qui est une montagne pour la Belgique, et donna le vertige aux Goffinets. Le village campe au confluent de la Vière et de la Sémois. C'est joli. Le nom du bled viendrait par le glissement de quelques lettres des tas de branches qu'on y cramait. On y aurait fait de grands feux. Débrûlés. Il y a là-bas, de nos jours, 500 habitants, autant dire que la densité est presque nulle, une sorte de Congo, les Bulles, un coin de vieille terre à cochons, où tous les Goffinets ont été forestiers avant de devenir porte-chambre et pot de serviette. Bien sûr, les Goffinets, ce ne sont pas des Beauforts avec deux F, ce ne sont pas des Patoules ou des Asco-Skoon-Oven, ce ne sont pas des Crayoncourt non plus, pas de ces hautes noblesses où le Purin a eu tout le temps de se faire feuille d'acanthe sur son traversin de poussière.
Alors ils font ce qu'ils peuvent, les Goffinais, ce qu'ils savent faire. Ils participent à toutes les bonnes causes. Ils sont agents immobiliers, par exemple, avec quelques amis. Franz de Vise, le baron de Wouters, et deux ou trois autres. Ils font construire un gigantesque bâtiment derrière la gare de Bruxelles qui servira de garde-meuble à toutes les grandes familles du monde. Dès qu'un archiduc, un comte de Paris ou un ministre tombe de son siège et fout le camp, hop, il fait porter ses meubles là, en lieu sûr. C'est ce que le XIXe siècle a été turbulent. On a dû en faire et défaire et refaire souvent ces valises. Il paraît qu'à une certaine période de l'année, sans doute au printemps, on a souvent deux jaunes d'œufs pour un, c'est-à-dire deux jaunes par œuf. Idem pour les Goffinais. Vous n'en voulez qu'un? Un seul homme de confiance? Un seul brave investisseur? Eh ben non, vous en aurez deux. Vous ne voulez qu'une seule paire de moustaches, qu'un seul ordre de Saint-Artempion, qu'un seul gros pif? Eh ben merde, vous en aurez deux. Et on ne fait pas du tout la même chose avec une paire de bigotes qu'avec deux. On ne fait pas du tout la même chose avec un seul tarin qu'avec deux. Oh, je ne sais pas si les Goffinais étaient monozygotes, mais je le suppose. Cette naissance double, cette colocation prodigieuse, serait alors le premier miracle du règne de Léopold. Évidemment, on peut regretter que Madame Goffinet n'ait pas eu des triplés, voire des quadruplés, que son utérus n'ait pas hébergé plus de monde. Et pourquoi pas 5, ou même 7, ou 8 Goffinets? Et pourquoi pas même plus de 10, comme les petits chiots? Mais la nature a ses devoirs. Et les Goffinets ne furent que deux. Il a suffi d'un seul spermatozoïde et d'une unique cellule pour faire ces deux gros machins. Car sans qu'on sache bien pourquoi, la cellule de la mère Goffinet s'est aussitôt partagée en deux, formant deux embryons avec chacun sa paire de moustaches. Mais il n'y eut pas que les Goffinets. Là, j'aperçois un ami de Léopold, le comte Brouchoven de Bergec. De nos jours, certains Brouchoven ont, semble-t-il, un petit château en Wallonie, au milieu de son étang,
Il paraît qu'il offre, d'après le dépliant, un cadre idéal pour un mariage ou un séminaire. Pour un mariage, j'ignore, mais pour un séminaire, il y a tout ce qu'il faut. Tableau, écran, rétroprojecteur, pupitre, sonorisation. Vous pouvez louer le château un samedi, ça vous coûtera environ 2 000 000 €. Et vous pourrez, moyennant cette somme, vous prendre un moment pour la bonne reine Marie-Henriette, la femme de Léopold, et peut-être pourrez-vous dormir dans la chambre bleue et rêver, rêver avec tous les Brookhaven du monde que vous possédez 4 millions d'hectares au Congo, ceux que Léopold avait inscrits au nom de son fidèle ami, votre ancêtre, et 4 millions de lianes, de singes, d'araignées, de feuilles vertes, de fruits, de tout ce qu'on peut imaginer de vert et d'humide et de vivant. Ça fait beaucoup, même pour tous les Brookhaven du monde, même pour tous les Belges du monde. Ça fait un fleuve tortueux et coupé de chutes, de rapides, traversant des montagnes, envahissant les plaines, parsemé d'îles et de bancs de sable, qui enfin se divisent en de multiples bras, après 4 000 km de voyage, charriant jusqu'à 80 000 m³ d'eau seconde, boueuse. On peut voir aujourd'hui, si l'on cherche un peu, tout un tas de photographies des Brookhaven et des Bergeck, nos contemporains, presque tous avec cette allure assurée, cette aisance, cette forme particulière de vulgarité qu'ont les grandes familles, comme si une chose vivait incorporée tout au fond d'elle et qui rendrait chacun de leurs membres témoin d'une âme. Qu'ils se détrompent, ils ont tous, qu'ils soient Bergeck ou Duchemol, un air de famille. Mais ils peuvent être de n'importe quelle famille, de n'importe quelle noblesse, de n'importe quelle bourgeoisie bien assise. Le premier fils de parvenu leur ressemble déjà. Car la lèpre vient vite. Il suffit d'un banc de collège, d'une heure de bateau, de quelques matchs de tennis. Et l'on fait partie de la petite ronde funeste. Mais tout ce caoutchouc, au fait, à quoi ça sert? On en fait des semelles de chaussures, des lacets, des préservatifs, et ce drôle de truc en forme de donut qu'on appelle un pneu. J'ai lu quelque part, sur le téléscripteur de je ne sais quelle maison de fous, ou sur le tambour d'une machine à laver, que les morts se moquent de nous et qu'ils nous font croire ce qu'ils veulent, que leurs cadavres ont l'air de dormir et de se tenir bien. Mais dès qu'on a le dos tourné, ils parlent et nous jouent toutes sortes de tours. Plus tard, ils nous étendent dans l'herbe et nous soufflent « Ce n'est rien, je faisais ça pour rire. » Efiévèse se tenait ainsi, médusé, depuis qu'il était rentré en Europe. Il ne pensait plus aux savanes d'Afrique, à sa bicoque moite, à l'horrible forêt, non. Il ne pensait plus ni à cet imbécile de Lemaire, ni aux carottes de maïs qu'il avait bouffées, non. Mais à la nuit tombée, il sortait, appelé dehors par je ne sais quelle force obscure. Il ignorait son idéal, et dans les WC des bars, devant les glaces, il pleurait, et s'essuyait vite le visage pour que personne ne le voie. Vers minuit, il rejoignait des camarades, il y avait des filles et de la bière, on s'amusait. Et au matin, lorsqu'il se réveillait, le ventre vide et le cul plein de merde, avec une femme qu'il connaissait à peine, dont il avait parfois oublié le nom, et qui finissait par se lever et se rafistoler la figure avant de laisser sur la table son adresse. Il avait honte. Et chaque soir, le voyage reprenait. Entre le hasard et chez soi, il tournait en rond. Et chaque matin, le voyage s'exténuait. Et chaque matin, dans la grisaille et la routine fidèle, dans la brume laiteuse, quand les femmes se tiennent accroupies dans les terrains vagues, pliant les genoux dans l'herbe fraîche, à l'écart des cahutes épices, il se traînait vers sa chambre. Il y a cette immense odeur à travers la ville, cette odeur d'homme et de femme, de fumier de vache, de croupissement d'eau, de flaque, de fumée. Et c'est comme si cette odeur avait eu quelque chose de plus à lui dire. À l'aube, les moucherons se réveillent, eux aussi, tout imbus de sommeil, cherchant sur ses bras et dans son cou un peu de sel. Il marche. N'ayant plus de rond pour le taxi, il marche, les jambes lourdes, épuisées. Il se traîne parmi les gardiens du vide, sentinelles froides, aux larmes gelées, et que l'haleine des visiteurs égarés fait fondre. Vieille putain ivre, clochard traîne sa vatte, ombre chargée d'empêcher les autres hommes de basculer dans le néant. Les années passèrent, Fiévèze fit encore quelque temps le sale boulot, et lorsqu'il revenait en Europe, il traînait des nuits entières, et ça lui faisait un peu oublier les horreurs et toute cette boue où il avait vécu. Puis il quitta définitivement le Congo. Et lui, le petit capitaine d'armée, le fils de fermier, lui qui avait postulé au Congo pour s'y faire un peu de thune, lui qui voulait bien tout faire, sauf reprendre cette saloperie de ferme paternelle. Lui quitta l'Afrique avec un petit pécule et retourna terminer ses jours dans son pays natal. De temps en temps, il allait à Bruxelles. Et là, quand il errait dans la nuit lumineuse de la grande ville, il adorait ça, toute cette lumière sortie du noir. Il traînait son petit corps usé, bouffait un sandwich dans un bar et buvait. Alors, tandis qu'usé par le travail et le malheur, il voudrait bien un peu vieillir et se reposer et oublier cette saloperie de Congo. Voilà que le chiffon se met tout doucement à effacer le petit énoncé de craie, la petite phrase de sa vie. J'aurais bien voulu la lire, j'aurais bien voulu réciter quelques-uns de ces petits mots qui ne reviennent jamais. Le professeur de réalité a écrit pour nous tous une petite phrase. Oh, pas grand-chose, juste de quoi se demander où l'on va, qui l'on est, et si les autres nous aiment, et jusqu'où ça va. Le professeur nous regarde pendant des années, et il espère qu'on apprendra à lire, à épeler la petite phrase, mais ça ne vient pas. On reste muet. Alors le professeur nous montre les mots du doigt. Il épelle, nous chuchote la première syllabe. Mais nous n'écoutons pas. Nous regardons ailleurs, vers nos camarades ou bien par la fenêtre. Devant lui, malgré la neige, un garçon enfourche sa bicyclette, un copain sur le garde-boue, un autre sur la tige, et hop, on file vers le centre. Mais Léon Fievez retourne au bar. Il boit un gin, puis deux, puis trois. Maintenant enhardi, dégagé des mouvements qui tuent le corps, du travail, de la longue méditation vide. Et puis on discute, on s'envenime. Fievez hausse le ton. Il est le patron du district de l'Équateur, pas un pauvre mec. Et puis on se réconcilie, car tout est vain sous le ciel énorme. Après s'être injurié, on s'embrasse. On ne se connaît que depuis un quart d'heure, mais voilà qu'on s'aime. Il raconte au type son enfance à la ferme, et surtout, il lui parle du Congo, de la grande chose qui le tourmente. La chanson est d'abord jolie, et puis elle devient grise. Insensiblement, maussade, funèbre, mais il la chante jusqu'au bout, jusqu'à ce que le type en ait marre. Alors le type le laisse, ivre, sentant la friture, les doigts gonflés. Fievez traîne sous les grands immeubles. Il se demande quelle est sa place sur terre. Pauvre Fievez. Il se tient dans son petit cercle de l'enfer, le septième, sans doute, se mordant lui-même. Ce n'est qu'un exécutant, Fievez, un agent. Il faut retrousser un peu son esprit jusqu'au début des choses, entre le champagne et les petits fours, entre les goffinets et leur existence de contremaître. C'est là qu'il faut oser voir. Le mal n'est pas à la jungle, comme une bête qui serait dans l'âme, non. Le mal, c'est ce qui dévore. Oh, ce n'est pas une puissance obscure attirante, non. C'est cette petite chose qu'on aperçoit sur certaines photographies dans le visage de Léopold. C'est la villa Mallette, avec ses modillons, sa cascade, les satyres du palais Radziwill et toute la philanthropie de Léopold. Le mal, c'est ça. Voici les vrais paludes, le masque, la conférence de Berlin et la richesse des nations. Je vais peut-être vous dispenser de la mort de Fievez, qui n'a eu que ce qu'il mérite, mais pas tout à fait. Il aurait mérité bien plus. Si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas Éric Vuillard, vous pouvez vous reporter aux œuvres de Joseph Conrad, bien sûr, et peut-être surtout d'André Gide. On reviendra un jour ensemble sur le travail d'André Gide, sur ses souvenirs du Congo, qui corroborent, comme on dit, exactement, l'œuvre d'Éric Vuillard. J'espère que je ne vous gâche pas le week-end. Il faut savoir tout ça, c'est tout. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à mercredi.